L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors nous voici pour une nouvelle série d'émissions. On va, Maud, avoir 5 ou 6 où nous allons aborder davantage les charismes de l'homme et de la femme.
Oui, c'est un sujet qui est en général assez polémique, donc on va essayer de revenir en profondeur sur ces questions-là, et notamment à partir évidemment de la situation dans laquelle nous sommes à l'issue de la Genèse. Donc c'est pour ça qu'on va repartir, Alex, sur ces tout premiers chapitres de la Genèse, après le récit de la création. C'est le récit qui va toucher dans la dimension de l'homme et de la femme par rapport à ce qui s'est passé avec le péché.
Voilà, alors on ne va pas reprendre tout le texte de Genèse 3 qui relate l'expérience de la chute et de la tentation, mais on va reprendre au verset 6 du chapitre 3 de la Genèse, où il est dit « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir, et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et en donna également à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient entrelacées. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé, qui se promenaient dans le jardin, à la brise du soir. L'homme et la femme se cachèrent de Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Et Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Et il répondit « J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » Et il dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme lui dit, « La femme que tu as mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. »
Voilà, donc dans ce récit de la chute, nous voyons comment l'homme et la femme, chacun de façon différente, a pris le fruit en exerçant donc les, ce qu'on appelle les trois convoitises, hein, dont nous avons déjà parlé l'année dernière dans ces émissions. Et à travers ces trois convoitises, l'homme et la femme se retrouvent donc dans une situation tout à fait nouvelle, où au lieu d'être dans le jardin, dans la sérénité et le plaisir d'être avec Dieu le Père, eh bien, ils ont peur, ils se cachent, ils découvrent qu'ils sont nus, et ils se retrouvent l'un en face de l'autre avec un regard tout à fait différent de ce qu'ils avaient connu au début de la Genèse.
Et ce qu'on peut dire, c'est que autant en Genèse 1 et Genèse 2, surtout, on sent une communion, une complicité, etc., entre Adam et Ève. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre, dit le texte de la parole. Et au côté à Genèse 3, cette expérience du péché va les diviser, va les fracturer, va les opposer. Ils ont honte d'eux-mêmes, ils se tissent des pagnes, donc ça veut dire qu'ils ont des problèmes de regard l'un en face de l'autre. Et puis, autant Adam avait exulté en disant « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair » en désignant Ève, là, exactement le contraire. Devant Dieu, il dit « Mais c'est, il est en train de dénoncer son épouse, mais c'est la femme que tu m'as donnée. » Rappelons-nous ce qu'il disait avant, où il exultait de joie devant cette femme. Et là, il la dénonce. Et que tu m'as donné, c'est plus sa femme d'ailleurs, c'est celle que tu m'as donnée. Voilà. Et donc on voit bien que le péché introduit l'homme et la femme dans une fracture intérieure et dans une fracture de cette relation avec l'autre et aussi avec Dieu. Et donc Maud, je crois que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que le péché dans nos dans nos êtres de femmes et d'hommes, bah, nous a complètement fracturés et fracturé notre relation.
Voilà, donc on a vu effectivement que à la place de cette situation de confiance, il y avait cette peur de Dieu. Donc en fait, on a été fracturé dans notre relation avec Dieu. Et au lieu d'une relation de filiale, je dirais, relation
communion,
voilà, quelque chose d'assez simple et naturel, en vient la peur de Dieu. On s'abrite derrière un arbre, ce qui est assez ridicule. Et puis, entre eux, effectivement, comme tu le soulignes, Alex, ils découvrent qu'ils sont nus. On a déjà parlé de cette nudité, mais cette nudité, elle devient agressive, pour eux, agressante. Le regard de l'autre s'arrête à mon corps, et du coup, je suis blessée dans ma relation à l'autre. Et puis, il y a aussi la troisième dimension de cette blessure, qui est la relation à moi-même. Et nous allons le voir au cours des siècles et dans l'histoire humaine, cette difficulté qu'on a à s'aimer soi personnellement, au sens aussi de trouver qui on est vraiment, quel est son véritable épanouissement, qu'est-ce qui fait que je suis moi, adulte, libre, debout devant les autres. Et c'est toute cette dimension de l'être humain qui ont été blessées par cette fracture de la chute. Et nous en sommes tous porteurs, c'est-à-dire que on a appelé ça le péché originel, parce que toutes les générations sont porteurs de cette triple blessure qui va avoir besoin justement du salut
et de la guérison de Dieu. Et c'est là où c'est important en termes pédagogiques. Les pères de l'Église ont beaucoup développé cette théologie anthropologique en soulignant combien dans chacune des personnes est présent comme une double nature. La nature originelle, telle qu'elle a été dessinée par Dieu, telle que nous sommes image de Dieu, et ça c'est une nature irréductible, fondamentale, et puis cette nature déchue, disent les pères, qui est la nature qui est voilée par le péché, qui est comme déviée dans le péché. Et c'est justement c'est toute la tension tragique qui existe dans l'histoire humaine et qui existe dans chaque personne et aussi dans chaque couple, c'est que nous avons comme une tension entre cette double nature, cette nature pécheresse et cette nature bénie, éternelle, qui est image de Dieu. Et toute la dramaturgie humaine, c'est justement le combat entre ces deux natures dont Paul parle très très clairement, hein, où il dit: je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Hein, dans Romains au chapitre 7, cette espèce de dualité, ce combat intérieur qui est le propre de chacun. Et justement, c'est l'œuvre du Christ de venir justement sauver l'homme pour nous libérer de ce péché, nous libérer de cette seconde nature qui voile la première, pour faire irradier cette première nature qui est image de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que il est dit chez le prophète Jérémie: je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Voilà, cette loi fondamentale, cette image de Dieu, cette nature originelle voilée par la seconde nature du péché, qui est inscrite en nous et qui attend d'émerger si nous accueillons la révélation du Seigneur, la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela que c'est très beau. Nous allons, pendant toutes ces émissions, nous allons voir comment dans l'histoire l'homme réapprend à être homme, la femme réapprend à être femme. Et c'est tout le sens de l'histoire dès le jardin d'Éden, où Dieu vient appeler Adam, vient appeler Ève: où es-tu, Adam? Il vient chercher l'homme, il vient nous chercher chacun. Et c'est tout le démarrage, et c'est tout le sens de l'histoire, de cette bénédiction, de cette recherche, de cette miséricorde. Adam, où es-tu? Où est la bénédiction que j'ai mis en ton cœur? Réveille cette image de moi-même qui est en toi et qui est voilée par ton péché.
Ça veut dire que dans tout l'ancien, l'histoire du peuple élu, et puis après, dans l'histoire aussi que des personnages de l'évangile et des saints et saintes que nous avons sous les yeux, on voit ce travail qui se fait au fur et à mesure des générations et dans chaque être humain, une sorte de réconciliation de cette double nature, justement, c'est enfin réconciliation, c'est plutôt l'émergence de la nature originelle qui arrive à franchir, je dirais, cette opacité de la nature pécheresse. Et c'est ça tout le chemin de la sainteté, c'est justement de laisser en nous s'épanouir cette nature originelle et de progressivement se débarrasser du vieil homme, c'est-à-dire de cette nature pécheresse. Et même si les pelures d'oignons sont nombreuses et qu'il faut parfois du temps pour les enlever, l'objectif c'est bien d'arriver à vivre de cette nature qui est libre et qui est restaurée dans toute sa dignité humaine. Et Jean-Paul II parlera énormément de ce travail de restauration de la dignité humaine. Et notamment, dans ses lettres aux femmes, il a repris cette importance que chaque génération a la responsabilité c'était même un devoir pour chaque génération, de dépasser ce mauvais héritage de la chute pour retrouver la plénitude de la masculinité, de la féminité et l'épanouir dans une relation purifiée.
Et il invite vraiment le peuple de Dieu justement à méditer justement sur tout le travail de reconstruction des charismes hommes-femmes tels qu'ils sont inscrits depuis les origines. Et il nous invite en tant qu'hommes et femmes, mais aussi en tant que couple, puisqu'il dit, Jean-Paul II, je cite Jean-Paul II, « Les mariés ont besoin de la grâce du Christ pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine, c'est-à-dire à la pleine connaissance et à la réalité intégrale du dessein de Dieu » qui est inscrit en eux. Voilà. C'est tout ce qu'on va essayer, Maud.
On va essayer de travailler sur ces deux types de figures. Donc l'homme, tout ce qui est masculin, et la femme, tout ce qui est féminin. Mais attention, on redit encore qu'on parle de pôle, hein, parce qu'il est bien évident qu'il peut y avoir des mélanges dans les personnalités. Tous les hommes ne sont pas strictement masculins, et toutes les femmes ne sont pas strictement féminines. Mais voilà. Il y a des pôles avec des...
Soyons pas cartésiens comme les occidentaux, soyons plutôt orientaux au niveau de l'approche théologique et spirituelle, avec plutôt des pôles charismatiques hommes et femmes. Voilà c'est ce qu'on va essayer d'aborder et de méditer durant ces quelques émissions. Et nous commençons tout de suite après la pause par justement les charismes de la femme. À tout de suite.
Nous revoilà dans cette émission où nous parlons des charismes de l'homme et de la femme. Et nous allons plus particulièrement nous attacher, Alex, au charisme féminin. Donc, pour commencer cette deuxième partie d'émission, reportons-nous à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute pour la femme ?
Voilà, et au travers de ce texte, on va mieux saisir les conséquences du péché tel que le lit l'identifie Yahvé suite à la chute. Donc, il dit à la femme, « Je multiplierai les souffrances de tes grossesses. » Dans la souffrance, tu enfanteras tes fils. Tu ne pourras te passer d'un mari, et lui dominera sur toi.
Voilà, dans ce texte qui est assez court, on voit que la conséquence du péché qui est lu par Dieu, en fait, ce n'est pas une malédiction comme on l'a souvent entendu, c'est une lecture de ce qui se passe. La femme est touchée dans toutes ses dimensions, ses dimensions de fille de Dieu, nous l'avons vu, puisqu'elle a peur de Dieu, ses dimensions de sœur, puisque, Alex, rappelle-toi, dans la Genèse, nous étions appelés à être d'égal à égal, c'est-à-dire en vis-à-vis l'un de l'autre, homme et femme, donc dans une égalité qui nous faisait frères et sœurs spirituels, de même dignité, de même nature. Et voilà que la femme est aussi touchée dans sa dimension d'épouse, c'est-à-dire que cette relation de confiance va se transformer en une relation de pouvoir. L'homme dominera sur toi. Et malheureusement, nous en avons combien d'exemples dans les siècles qui se sont déroulés. Et c'est toujours une souffrance pour la femme. Et enfin, elle est touchée aussi dans sa dimension de mère, et notamment dans ce travail d'enfantement qui, au lieu d'être une jubilation, va souvent être malheureusement source de souffrance et de douleur pour elle.
Voilà, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils.
Voilà, alors la femme étant touchée dans ces trois dimensions, si on écoute Jean-Paul II dans sa lettre Mulieris Dimitiatem, c'est-à-dire la dignité de la femme, il parle très justement de cette prise de conscience que la femme doit faire, comme l'homme d'ailleurs, de cette dégradation de sa féminité. Et cette dégradation de sa féminité, elle est appelée à regarder les figures féminines de l'Ancien Testament, du temps du Christ jusqu'à nos jours, pour prendre conscience de la force morale de la femme et de sa propre spécificité. Voilà ce qu'il nous dit Jean-Paul II. Donc nous allons, Alex, prendre quelques figures de l'Ancien Testament ou quelques figures du Nouveau Testament qui vont nous éclairer sur des aspects de la féminité. L'idée, c'est pas évidemment de se conformer à la totalité de ce qui est une personnalité, mais d'en repérer les aspects, je dirais, pédagogiques pour nous, femmes, ou pour vous, hommes, qui vont nous permettre d'identifier ce qui est propre à la femme et propre à l'homme.
Alors, qu'est-ce que, justement, on va commencer ? Bah, commençons par la première des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de Ève, de l'expérience de Ève ?
D'abord, elle s'appelle Ève, qui veut dire mère de tous les vivants. Donc, une des premières choses qui est inscrite dans l'identité fondamentale de la femme, c'est cette relation à la vie et à la mort. Et quelle que soit sa culture, anthropologiquement, la femme est liée à l'accueil de la vie. Bien sûr, on le sait parce qu'elle porte des enfants, mais elle a aussi cette sensibilité sur ce qui porte à la vie et ce qui porte au contraire à la mort. Elle est sensible à tout ce qui touche à l'entretien de la vie, et notamment on le voit par exemple, Alex, dans les guerres, etc. Les femmes ont toujours ce souci de la personne et de l'existence, au sens parfois de la survie, mais elles savent discerner dans les choses ce qui va mener à la vie, ce qui n'y mène pas, même si elles ont parfois du mal à l'exprimer. Et Ève, donc, la première, est bien sûr tournée vers la vie, puisque c'est elle qui va être à l'origine de l'humanité.
Voilà, et puis elle est aussi attirée, si on peut dire, par le surnaturel, par la vie mystique, par l'aspect spirituel. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le serpent, au niveau de la tentation spirituelle suprême, s'est adressé à Ève et non pas à Adam.
Voilà, alors il y a une petite anecdote qu'on raconte en riant, c'est qu'effectivement, autant l'homme a été tiré de la terre, autant la femme a été tirée de l'homme. Autrement dit, elle n'est pas née de la terre directement, elle est déjà dans une autre, et je dirais dans une autre existence qui est plus tournée sur l'existence humaine au sens spirituel du terme. Et elle n'a pas de difficulté à entrevoir dans la réalité ce qui est spirituel, ce qui touche justement à l'essentiel de la vie, et à l'amour et au relationnel. C'est pour ça que les femmes, par exemple, dans leur travail, préfèrent souvent la qualité des relations dans le boulot que forcément l'intérêt strict du travail, alors que l'homme va s'attacher davantage à ce qu'il est en train de réaliser. Encore une fois, attention, ne caricaturons pas, ce sont des tendances, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde réagit comme ça, puis c'est jamais carré. Mais la femme est toujours sensible à ce qui est spirituel, elle est attirée par le spirituel, attirée par l'existentiel. C'est ce qui fait aussi que ben souvent dans l'histoire, on a parlé des sorcières par exemple, rarement des sorciers, je sais pas si tu remarques Alex. Parce que tout ce qui est justement spirituel, ben, que ce soit perverti ou au contraire une bénédiction dans la lumière, la femme est quand même en général plus sensible à ça. Et on le retrouve même au temps du Christ, à la résurrection, les femmes n'ont pas eu de mal à comprendre et à le croire. Mais les hommes, oui, il leur a fallu du temps pour vraiment prendre conscience que le Christ était ressuscité. Marie-Madeleine, elle a vu une fois Jésus ressuscité, c'était clair pour elle, elle n'a jamais douté. Et il y a une espèce d'évidence. Et c'est vrai que c'est pour ça que, bah, malheureusement, cette évidence-là fait que parfois ça peut aussi être détourné.
On le constate également très souvent dans les couples, eh bien, la dimension spirituelle sur le sens de où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut construire, ben, c'est souvent la femme qui est alertée par rapport à ça et qui travaille sur le sens des choses, alors que nous les hommes, à des moments, on est un peu un peu au jour le jour, dans le faire, etc., etc., et on se pose pas trop de questions fondamentales, existentielles. On est dans la réalisation, mais sur le sens du faire, de là où on veut aller, bah, à des moments, on est un peu à courte vue. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui rejoint nos natures et nos charismes.
Voilà, donc c'est normal que ce soit aussi la responsabilité de la femme d'éveiller l'homme, puisqu'elle a été mise en face de lui pour être son vis-à-vis, son aide. C'est elle aussi d'éveiller l'homme pour rentrer dans cette dimension du sens et de la profondeur des choses.
Alors, si on passait à une autre figure emblématique dans l'Ancien Testament, Sarah, c'est la femme d'Abraham.
Absolument, alors elle est appelée Sarai au début de l'histoire d'Abraham. On dit qu'elle était très belle, ce qui généralement dans la Bible, quand on le dit, c'est qu'effectivement ça devait être largement le cas. Et ben, Sarai, elle a une docilité étonnante puisqu'elle suit son époux Abraham. Quand on dit quitte ton pays, on parle d'Abraham, mais Sarai elle a suivi, hein. Elle a quitté aussi son pays, elle a quitté aussi la maison de son père. Et elle est rentrée justement dans cette docilité à l'œuvre de Dieu. Elle était appelée aussi à devenir une nouvelle femme parce qu'elle a changé de nom. Et pourquoi a-t-elle changé de nom? Parce qu'elle était stérile. Et cette stérilité, eh bien, c'était aussi quelque chose qui était lié à une blessure en elle, une difficulté à se donner vraiment dans la générosité à son mari, ne pas retenir justement cette lecture des choses, cette intériorité qu'elle a, arriver à le partager avec son mari. Et quand elle a reçu cette guérison, alors elle s'est appelée Sarah et Abraham est devenu Abraham, c'est-à-dire que tout le couple a été guéri et que cette libération de la générosité de Sarah a fait qu'elle a pu donner la vie.
Alors, rappelle-nous aussi l'épisode qui se passe chez le roi Abimélec avec Abraham.
Oui, ça c'est un petit épisode qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'Abraham dit à Sarah, Sarah, tu es trop belle, tu vas susciter des convoitises et on va me tuer à cause de toi, donc tu diras que tu es ma sœur. Mais au-delà de ces petites anecdotes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, pour Abraham, Sarah était sa sœur spirituelle, c'est-à-dire qu'il lui demandait conseil, il tenait compte de son avis, et l'un et l'autre discernaient les appels du Seigneur ensemble. Et on dit que dans cet épisode, on remarque bien que selon Dieu, nous sommes appelés à faire de nos femmes ou de nos maris, nos frères et nos sœurs, alors que les pharaons faisaient de leurs frères et de leurs sœurs, leurs épouses. Parce qu'on se mariait en consanguinité à cette époque-là chez les pharaons. Il y a donc une rupture complète. C'est une, je dirais, une dignité de frère et de sœur qui est spirituelle.
Voilà, nous n'avons pas fini. Nous commençons par ces deux figures charismatiques, hautes figures, qui sont Ève et Sarah, et Sarai. Et nous allons continuer pendant la prochaine émission justement à aller de figure en figure charismatique de la femme. Voilà, que le Seigneur vienne vous bénir, vienne vous rejoindre, particulièrement les femmes qui nous écoutent, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.